Ce matin, dans les studios de Radio Royan-Vercors, on parle de thérapie, on parle de santé mentale, on parle de mieux-être, des thématiques dont on a besoin de parler, même si on l'aborde peu sur nos ondes. Et pour ce faire, je reçois Mathilde de Bordeaux, jeune thérapeute installée à Saint-Laurent-Royan dans le cabinet Éclore tout récemment depuis mai 2024. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bienvenue dans les studios. On va prendre le temps de te rencontrer parce que, comme je le disais, tu démarres cette activité plutôt dans les thérapies brèves. On va avoir le temps de faire le tour de ça. Et tu as envie aussi de te faire connaître, de savoir qu'on comprenne ce que tu proposes.
C'est ça.
Donc c'est l'occasion de venir au micro et puis de parler de tout ça. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pour que les auditeurs auditrices te rencontrent, est-ce que tu as envie de donner quelques éléments de qui tu es ?
Eh bien, je m'appelle donc Mathilde de Bordeaux. J'ai ouvert le cabinet Éclore avec Anne-Lise Mansuit, qui est psychomotricienne, et Marie-Lise Gauthier, qui est éducatrice spécialisée en mai de cette année, 2024. J'ai 34 ans, deux petits garçons.
Et donc, ce qui t'intéresse, toi, c'est, on pourrait dire, comme on pourrait le dire, la relation d'aide, le fait d'apporter du mieux-être ou de la thérapie aux personnes?
C'est ça. Le cœur de mon métier, c'est vraiment d'aller comprendre ce qui va poser problème, ce qui empêche les gens d'avancer, ce qui va les empêcher d'être au mieux dans leur vie, dans leur être, et d'aller trouver avec eux la clé de tout ça, la clé qu'ils ont en eux, mais en tout cas de les guider vers ça, vers cette lumière qu'ils ont en eux et de les aider à la faire rayonner.
Et du coup, tu disais un peu en off là que toi, tu as eu un parcours où tu t'es pas mal cherché sur différents sujets, différents domaines, jusqu'à ce que tu te rendes compte que ben, c'est ça que tu avais envie de faire, tu me disais un peu de comprendre en fait, de te dire tiens, y a des choses qui bloquent dans la vie et ça concerne vraiment tout le monde, mais comment on peut solutionner ou en tout cas apporter voilà, des clés de compréhension, mais aussi de débloquer. Et c'est pour ça que tu t'es orientée vers la thérapie.
C'est ça, ouais. Moi, j'ai longtemps cherché ce que je voulais faire. J'ai longtemps pensé que je trouverais pas. D'ailleurs, ça a été des moments de gros doutes, de grosses remises en question sur moi-même, qui m'ont moi-même menée à faire un suivi psychologique, alors voilà, différentes approches, différentes pratiques. Et en fait, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment ça, finalement, qui m'animait, d'aller chercher, d'aller comprendre qu'est-ce qui bloque, où ça bloque, et surtout à quel point le moment de la résolution, le moment de la compréhension, on se dit « Ah purée, mais en fait, c'est ça que j'ai besoin. » Et aussi, les premiers pas vers cette solution. Et de... Alors, au début, forcément, je n'étais pas thérapeute, donc ça se faisait plutôt avec des amis, avec des proches. Mais je me suis rendu compte à quel point ça pouvait m'épanouir moi-même, de voir les autres se transcender, de voir les autres évoluer, changer. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, puisque c'est là-dedans... Que je me sens bien, mais autant le faire moi, si je peux être l'aide pour ça, et ben c'est tout bénef quoi. Enfin, je m'épanouis, je vois les autres s'épanouir. Enfin,
gagnant gagnant.
Ouais.
Donc à ce moment-là de cette volonté comme ça d'accompagner les autres à trouver leurs ressources, tu tombes sur une formation en thérapie brève. Alors dans les paysages des thérapies, bah il y a plein de choses différentes, hein. Il y a à boire et à manger aussi, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et peut-être il y a des choses qui sont moins connues du public, ou alors au contraire ça dépend un peu de d'où on vient et quels sont nos parcours. Mais du coup tu te retrouves à faire cette formation autour de l'hypnose, de la PNL et de l'EMDR. Alors là, je viens de dire plein de mots avec plein d'acronymes. Il va falloir que tu expliques aux auditeurs et auditrices qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette formation.
Alors en fait, c'est arrivé à un moment où moi, j'étais jeune maman, où j'avais envie aussi de m'épanouir en tant que moi, que femme, qu'individu, et pas juste être dans ce nouveau rôle. Et en faisant des recherches comme ça sur Internet, je suis tombée sur les thérapies brèves. Donc moi, c'est quelque chose que je connaissais pas, en tout cas pas sous ce nom-là. J'avais moi-même été en séance de thérapie brève, mais sans vraiment prêter attention que c'était ça. Et donc, j'ai commencé cette formation, donc voilà, qui réunissait l'hypnose ericksonienne, la PNL, donc la programmation neurolinguistique, et l'EMDR, qui consiste à une désensibilisation par mouvement oculaire. L'EMDR, pour le coup, là, c'est vraiment axé sur les traumatismes. Voilà, donc pendant un an, j'ai suivi cette formation qui, du coup, nous fait aussi travailler sur nous-mêmes et qui a été vraiment révélatrice dans le sens où, déjà, encore une fois, ça m'a beaucoup fait évoluer. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est cette magie-là, c'est le... Ouais, j'étais tellement, en fait, impressionnée par les résultats qu'on pouvait avoir en pratiquant et en recevant, en fait, cette thérapie, bref, que ce soit, encore une fois, par l'hypnose ou par la PNL, que, ouais, c'était vraiment le... Je veux y aller, quoi. Il n'y a pas de doute... C'est ma place.
Des fois, c'est ça que ça fait dans la vie. Ça sonne juste. C'est ça. Ça s'aligne. Et donc, du coup, tu fais cette formation. C'est comme un révélateur pour toi. Et alors, du coup, pour bien donner un peu comment tu travailles aux auditeurs, auditrices, les thérapies brèves se centrent plus sur le symptôme et le passage à l'acte pour la résolution, disons, que des thérapies qu'on connaît plus traditionnellement, que ce soit, par exemple, la gestalt ou alors la psychanalyse. Là, il y a vraiment... alors, tu disais que c'était quand même des approches complémentaires de ce type de travail.
Complètement.
Toi, comment t'abordes ça quand tu reçois des personnes
Déjà, la première chose, pour moi, qui est importante à mettre en avant, c'est que ma pratique ne remplace absolument pas celle d'un psychologue. J'ai vraiment pas ni l'intention ni la prétention de pouvoir prendre cette place-là parce que je fais pas du tout la même chose et parce que c'est un autre accompagnement. La thérapie brève, l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers l'objectif de la personne. La personne qui vient me voir, elle a un ou plusieurs problèmes. Voilà, on va au début et comme dans n'importe quelle autre thérapie, on va énormément parler, on va forcément faire ce qu'on appelle une anamnèse, où on va aller voir un peu le contexte, la vie en général. Et après, on va s'orienter vers les objectifs. Et ça va être le premier pas dans la thérapie brève, c'est d'aller définir un objectif clair, précis, et qu'on puisse dater dans le temps.
Et donc, du coup, si tu as des exemples, un objectif, est-ce que c'est vraiment, par exemple, je souhaite arrêter de fumer, ou alors je suis agoraphobe, j'arrive pas... Tu vois, sur des ouais. symptômes plus comportementaux, ou alors ça peut être, en fait, je suis déprimé, je suis au fond du trou, et sortez-moi de là.
Et ben ça peut... Alors, je sors pas les gens, tu sais, je les aide à sortir, je leur donne une corde et on travaille ensemble. Mais en fait, ça peut être les deux. Ça peut être vraiment quelque chose de très concret, comme arrêter la cigarette, sortir de troubles de TOC. Ça peut être aussi simplement je manque de confiance en moi depuis toujours, je n'en peux plus, je veux une solution. Et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose de vraiment concret. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va faire à un moment précis. C'est un état d'être général. Mais ça, là encore, on peut le mettre en objectif, se dire bon, bah, ok. Alors souvent, on utilise une échelle de mesure, mettons de 0 à 10. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi à 2. Dans un an, je vais avoir confiance en moi à 8. Mmh. Et du coup, on met en place plein de... Alors en PNL, on travaille beaucoup avec des protocoles. Et on va mettre en place différents protocoles, faire des petits pas et travailler. Il y a aussi beaucoup, en thérapie brève, l'idée que le patient ou la patiente est actant. On attend vraiment que la personne se prenne aussi en main. Moi, je vraiment, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste quand les gens arrivent en séance, il n'y aura pas de déclic. J'ai pas de baguette. J'accompagne vraiment, je sors. C'est plutôt comme si j'étais quelqu'un avec une mallette à outils. Je mets à disposition tous mes outils, on teste tous les outils, mais après il y a un gros travail aussi à faire chez soi, que ce soit pour travailler sur des croyances, par exemple quelqu'un qui va à longueur de temps se dire ah non mais je suis nulle, non mais ça sert à rien que j'ouvre la bouche, je dis que des bêtises. Et ben je vais lui demander de, par exemple, entre deux séances, à chaque fois qu'elle a cette pensée qui vient, déjà juste d'en prendre conscience. De se dire « Attends, mais là, je me suis dit que j'étais nulle, mais non, en fait. » Et d'aller remplacer cette croyance par « Je suis capable, j'apprends. » Et après, en séance, on va pouvoir travailler aussi sur cette croyance pour la changer. Ça, c'est vraiment le principe, enfin, un des principes très forts de la PNL, c'est d'aller modifier ses croyances, d'aller donner à l'inconscient d'autres choses que ces mots-là, travailler aussi sur son langage.
Oui, c'est tout le domaine des croyances limitantes, comme on
c'est
dit.
Ça.
Et en même temps, quand on a ces croyances-là, elles viennent pas de nulle part. C'est-à-dire qu'elles sont quand même soit héritées de traumas, de choses très intimes ou familiales et ou culturelles, parce qu'on voit aussi qu'il y a des choses qui viennent, je sais pas moi, de l'école, du milieu social dans lequel on est. Et du coup, remplacer la croyance, est-ce que ça remplace la souffrance qui est générée par cette croyance-là ? Par exemple, si on a toujours cru qu'on était nul, incapable, moche, je sais pas quoi. Est-ce que remplacer, enfin, ce que tu proposes, c'est-à-dire remplacer une croyance par une autre, est-ce que ça suffit ? Enfin, je le dis volontairement comme ça, en faisant un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça marche, quoi ?
Est-ce que ça marche ? Oui. Moi, j'en ai été témoin et je l'ai moi-même vécu. Donc, je pense que, je vais me répéter, mais il y a quand même une grosse part de décisions personnelles, en fait. Il y a des gens qui les personnes qui viennent me voir et qui ont envie vraiment de se dire bon, là ça suffit, là ça, je pense que il y a aussi un moment où les gens se disent j'ai ça en moi, je ne le veux plus, je veux changer ça. Et ça, c'est déjà je sais pas moi, 50% du travail qui est déjà fait, en fait, d'avoir cette décision de prise. Après, la décision, le switch peut aussi se faire en séance, en fait. À force de parler, à force d'entendre que, ben non, en fait, je vaux le coup, je mérite autant que les autres. Et de comprendre aussi, justement, ce que tu disais, que ce qu'on a assimilé, on reprend par exemple la croyance de je suis nul, je suis incapable, je sais rien faire. De comprendre qu'on l'a assimilé, de comprendre d'où ça vient, on se dit « Ah ouais, mais en fait, c'est pas moi. C'est pas inscrit en moi. Je l'ai appris. » Et de la même façon qu'on apprend, on peut désapprendre les choses. Alors au début, on va, mettons sur une croyance de « je suis nul », on va la remplacer par « je suis capable ». On va faire un gros travail en PNL dessus. Il va y avoir des protocoles justement pour aller, comment dire, pour que cette croyance de « je suis nul » soit clairement remplacée par « je suis capable ». Mais même visuellement, on va travailler avec des papiers, on va écrire des phrases sur des morceaux de papier. Vraiment, on va aller le concrétiser. Et après, ça demande de la pratique, en fait. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Et on essaye, et on se rappelle qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Ah ouais, non, là, il faut pas que je pense comme ça. Il faut que je me dise ça. Et c'est vraiment en faisant, finalement. Et à force, ça rentre. À force, on se rend compte que... Ah, mais ouais. Et aussi de se rendre compte des petites choses. De se rendre compte que la confiance en soi, il n'y a pas non plus besoin de gravir l'Everest pour gagner en confiance en soi. Des fois, juste sortir de sa zone de confort, oser parler, par exemple, à un moment où, d'habitude, on n'ose rien dire. Oser dire non à quelqu'un à qui on dit toujours oui. Mais ça, c'est des petites choses qui sont faisables, qui sont difficiles à faire, mais qui sont faisables et qui peuvent apporter vraiment un gros changement. En fait, juste changer sa façon de faire, changer ses habitudes, sortir de sa zone de confort, vraiment... Ça paraît, des fois, ça paraît difficile et en même temps anodin, parce que c'est pas des choses extraordinaires. Mais rien que ça, ça peut changer
la vie.
La vie, ouais. Non, mais c'est vrai. Hein, tout un comportement, toute une façon de faire, c'est extraordinaire.
Et du coup, je me demandais quel était le lien aussi avec. Alors, je sais pas si dans cette formation, il y a eu en thérapie brève, il y a eu de la théorie, il y a eu de la pratique. Je me demandais s'il y avait des liens aussi avec des choses plus, sociétales aussi. Comment effectivement, au niveau de notre société moderne, il y a des choses qu'on reçoit, qui sont des messages qui vont être effectivement négatifs ou au contraire de je suis capable. Enfin, ça, c'est des choses qui peuvent être aussi intégrées par tout un environnement. Je pense à ça et au dernier livre de Mona Chollet, par exemple, sur résister à la culpabilisation. Le fait que la culpabilité, ça vienne pas que de nous, c'est aussi des choses qu'on a intégrées. Et c'est ce que tu dis, on peut apprendre à les sortir de soi, puisqu'on reprend du pouvoir dessus, quoi. Mais du coup, je me demandais s'il y avait des choses aussi là-dessus dans votre formation ou pas du tout. Ou si toi, tu étais documenté un peu.
Mais en fait, ça rentre vraiment dans ce que je te disais, dans le contexte général dans lequel, quand la personne arrive, forcément, elle arrive avec son contexte personnel, voilà ce qui se passe dans sa famille, ce qui se passe dans son entourage, au travail et tout. Et après, on peut entendre aussi des choses comme « Ouais, mais bon, ça se fait pas. Mmh. Ouais, mais je peux pas. » Enfin, mmh. Et là, ces choses-là, oui, c'est la société qui vient nous dire... enfin qui vient nous dire, pas directement, mais en tout cas qui induit un comportement, qui induit des attentes. Et là aussi, on va pouvoir venir remettre la personne en fait au centre. Et lui montrer que, ben oui, c'est vrai qu'il y a des attentes, c'est vrai qu'il y a des injonctions, mais on a toujours le choix. Des fois, c'est pas facile, hein. Des fois, c'est difficile de faire le choix de soi, de faire le choix de se mettre en avant, mais on peut. On peut. Et ça vaut la peine. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est un apprentissage. On appelle thérapie brève, attention, hein, ça dure pas, il faut pas trois séances, hein. Il y a quand même un travail de fond, mais ouais, c'est, enfin.
Oui, c'est ça, c'est comme ça, c'est thérapie brève, et à la fois, peut-être que, pour donner une indication, c'est quoi, c'est de l'ordre de quelques mois ou quelques années, comment tu vois les choses?
Ça dépend vraiment de l'objectif de la personne. Mettons sur un arrêt du tabac, ça peut aller vite. Sur des choses assez concrètes, je crois que ça peut aller vite. En fait, je pense que ça dépend même pas de la problématique. Je pense que ça dépend vraiment de la personne et de sa vie en général. Il y a des personnes qui vont réussir à se dire, ah mais ouais, en fait, qui vont avoir ce déclic et qui vont réussir à mettre leurs nouvelles habitudes en route facilement. Et qui vont aussi accepter que des fois, enfin, qui vont facilement accepter une rechute, parce que ça, c'est aussi important de le dire. Enfin, on peut changer une habitude, reprenant la confiance. On peut gagner en confiance en soi. Et puis un jour, on va être confronté à quelque chose et on va dire, oh purée, ça y est, je me sens nulle. Oh là là, non, j'y retourne, je me sens encore nulle. Et il y a des gens qui naturellement vont se dire, bon bah c'est ok. C'est une passade, je me sens pas bien, ça va revenir. Et d'autres qui vont être dans un moment de « Oh là là, ça y est, je suis repartie en arrière, j'ai tout perdu. » Et là, qui vont avoir besoin de revenir, de reprendre confiance, d'être réassurée. Et du coup, voilà, pour ça, le délai de résolution du problème va dépendre de tout ça. Pour autant, je crois que quand même, je pense que déjà en 6 mois... Alors, moi, je dis 6 mois, mais à raison d'une séance toutes les 2 semaines, moi, c'est ce que je propose. Je trouve ça bien aussi pour que la personne intègre un petit peu ce qui s'est passé en séance. Voilà, à raison de 6 mois, je pense que déjà, enfin, moi, je constate des avancées phénoménales. Enfin, vraiment, des personnes qui ont fait des pas vers eux, qui se sont réalisées elles-mêmes. Ça me rend fière en fait d'elle, vraiment, de me dire purée, mais quelle force, quelle puissance, quelle reprise en main. Enfin, ça vaut tout l'or du monde.
Et alors, du coup, dans ce cabinet Éclore à Saint-Laurent, tu t'es associée à 2 personnes, psychomotricienne et éducatrice spécialisée. Est-ce que vous travaillez ensemble des fois, ou est-ce que c'est vraiment pour associer et avoir un cabinet ensemble que vous avez choisi ce montage?
Alors, au tout début, c'était vraiment l'idée de on partage un cabinet. Parce qu'elles n'en ont pas besoin, enfin toutes, on n'en avait pas besoin à temps plein. Vraiment, ça, c'était la base. Après, donc Marie-Lise Gauthier et Anne-Lise Mansuy, elles travaillent principalement avec les enfants, donc en psychomote, ou Marie-Lise qui est éducatrice spécialisée. Donc, on va travailler ensemble plutôt du côté des aidants. Notamment là pour le coup les parents qui peuvent avoir besoin d'un répit, qui peuvent avoir besoin d'un temps d'échange avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais voilà, dans ces moments-là on peut avoir à échanger ensemble, mais de manière générale on travaille quand même de façon plutôt séparée.
Et comment on fait si on veut te rencontrer, te trouver? Comment est-ce que tu communiques? Parce que c'est un peu ça l'objectif aussi, c'est de te faire connaître sur le territoire. Et on le disait, dans un paysage où il y a quand même beaucoup de monde sur le territoire dans
c'est
les
ça.
Questions de thérapie de différentes sortes. Hein. Et comment tu veux, comment ça se passe pour toi pour te trouver?
C'est vrai qu'on est extrêmement nombreux à proposer différentes pratiques. Moi, j'ai distribué pas mal de cartes. Déjà chez les commerçants, mon cabinet ça s'appelle Aimez-vous. Après, je suis aussi pas mal présente sur Facebook, sur Instagram. Dans pas longtemps, je vais lancer mon site internet aussi pour rayonner encore plus.
Et puis après, le bouche à oreille, j'imagine.
Et puis après, c'est beaucoup ça. La thérapie, c'est se faire connaître en tant que thérapeute. Le bouche à oreille, c'est le vecteur le plus important. Donc
Il y a des salons aussi, salon du bien-être ou ce genre de choses. Je crois que ça arrive dans le Royan, mais aussi du côté de Saint-Marcellin.
Il y en a un, il y en a à Saint-Marcellin, il y en a à Étoile-sur-Rhône, à Porte-les-Valences. C'est des endroits où je vais faire en sorte d'être, d'aller et de me faire connaître aussi. Voilà.
C'est pas facile hein, de tirer son épingle
non,
du jeu.
Non, c'est pas facile. Après. C'est vrai que pour l'instant, je suis quand même assez peu connue. Mais j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement ça que c'est OK de patienter, quoi.
C'est quelque chose qui prend du temps aussi.
C'est ça.
Qui est un métier aussi de maturation, on s'inscrit dans le temps long, quoi, même si c'est des thérapies brèves.
C'est ça. ça fait partie du travail sur soi aussi, d'accepter que c'est comme ça, que ça prend du temps et que si c'est vraiment ce que je veux et c'est vraiment ce que je veux, eh ben, je patiente et je fais de mon mieux et ça va se faire.
Eh ben, Mathilde, merci d'être venue présenter ton activité de thérapeute.
Merci de m'avoir reçue.
Donc, on rappelle que tu t'appelles Mathilde de Bordeaux, que ton cabinet c'est
Aimez-vous
et que c'est au cabinet Éclore à Saint-Laurent-en-Royan et qu'on peut te trouver sur le monde numérique, mais aussi tout à fait non virtuel.
Oui, j'existe.
Merci à toi.
Merci beaucoup.